moi.
Alors c'est pas moi, hein, c'est Jésus qui parle. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Cette parole, prononcée par Jésus dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean, s'adresse à une jeune femme. Mais en fait, elle s'adresse à chacun de nous. Et la réponse que l'on va avoir à cette question aura des conséquences éternelles. Je vais aborder aujourd'hui ce sujet de la résurrection. Et en l'abordant, j'ai conscience d'être un maillon, un héritier peut-être de la tradition de notre Église, parce que ce verset que je viens de citer, c'est le verset qui est affiché tous les dimanches. Et vous savez que pour ceux qui fréquentaient l'Assemblée depuis un certain temps, dans l'ancienne Assemblée, le verset de référence de l'Église, c'était 1 Corinthiens 15. Alors peut-être Pierrot, tu as participé à l'élaboration ou au choix. En tout cas, c'était affiché « Christ est ressuscité ». Donc la résurrection de Christ est vraiment dans l'ADN de notre Assemblée. C'est ce que l'Assemblée a choisi depuis des années de représenter. Parce que c'est un événement, encore une fois, important, qui peut avoir des conséquences éternelles, qui a des conséquences éternelles pour chacun de nous. Voilà, je vais demander à Horeb si tu peux lancer une petite vidéo. Je suis pas un grand fan de cinéma, mais c'est une bande-annonce d'un film qui va sortir, un film américain, qui va sortir bientôt sur les salles, qui va parler de la résurrection de Jésus. Et c'est la résurrection de Jésus au travers du regard d'un païen. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à cette dernière réplique de cette personne qui interroge l'autre en disant « Mais de quoi est-ce que tu as peur ?» Et l'autre de répondre « De m'être trompé et de miser l'éternité dessus. » Donc l'une des questions que Jésus va poser à ses interlocuteurs, c'est « Crois-tu cela ? Crois-tu que je suis la résurrection et la vie ?» Et on verra que dans ce texte de Jean 11, qu'on va lire dans un instant, eh bien il y a plusieurs types d'interlocuteurs différents. Et mon but ce matin, ça va être que tout le monde, c'est d'être sûr que personne dans cette salle ne se soit trompé sur la portée de la résurrection de Jésus. Parce que la position que chacun de nous va prendre sur la résurrection de Jésus va conditionner notre destinée éternelle. Vous savez que la Bible nous dit, on le croit ou on le croit pas, mais la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc ceux qui vous disent, après la mort, il n'y a rien, ils sont libres de croire cela. Mais quelque part, c'est du déni, je pense. Parce que la Bible nous dit qu'on est programmé en tant qu'être humain pour croire qu'il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et finalement, la résurrection de Jésus, c'est le point clé peut-être qui distingue le christianisme de tout le reste. Il y a beaucoup de religions sur cette terre, mais il y a une seule religion qui parle de l'éternité. Alors je ne devrais pas dire religion. Il y a une seule personne, une seule foi qui parle de l'éternité. Vous savez par exemple que les Sadducéens à l'époque de Jésus niaient la résurrection. Les pharisiens, ils ont menti sur le corps, ils croyaient pas à la résurrection ou ils voulaient la cacher. Et puis, Il y a de multiples religions sur Terre qui sont inspirées plus ou moins par l'ennemi de Mozam, qui font croire que il y a une réincarnation, une deuxième, une troisième, une quatrième chance, etc. Alors que la Bible nous dit clairement dans Hébreux 9, 27, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà. Donc on va parler de résurrection aujourd'hui, on va lire ce texte de Jean 11, et avant de lire ce texte, on va prier pour que vraiment demander la grâce de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous ouvrons ta parole, et je suis conscient que c'est ta parole éternelle. C'est pas juste quelques mots, c'est pas juste un livre, Seigneur, c'est ta parole qui nous vient de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi pour que tu ouvres les yeux de notre cœur, pour que tu nous aides à la comprendre, que tu nous aides à comprendre derrière les mots quelle était ton intention, qu'est-ce que tu veux nous apprendre, qu'est-ce que tu attends de chacun de nous. Seigneur, parce que nous sommes conscients quelque part que l'éternité est en jeu. Seigneur, bénis ta parole maintenant, bénis ton nom, que ton nom soit glorifié. Amen. Alors, Jean chapitre 11. La lecture est assez longue, le temps est court, c'est un texte d'une richesse infinie, donc j'ai dû faire des choix, on ne parlera pas de tout, mais on parlera d'un truc essentiel. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, ceux qui n'ont pas leur Bible, voilà, il est un peu long le texte, hein. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Le mot aimait ici, c'est le mot suprême, hein, agapao. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y retournes? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Or, Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, le Maître est ici et il t'appelle. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient la virent se lever promptement et sortir. Ils la suivirent pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait, que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?»« Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne meure pas ? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car c'est le quatrième jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors ! Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs venus chez Marie qui avaient vu ce qu'il avait fait crurent en lui, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens pour leur dire ce qu'avait fait Jésus. Voilà, on va arrêter la lecture ici. Pour revenir sur ce texte, donc c'est le septième et dernier miracle public de Jésus. Hein, vous savez qu'il y a très peu de miracles dans l'évangile de Jean, il y en a 8 au total, avec 7 miracles, on va les appeler les signes, ce sont des signes pour croire. Septième, donc, signe public, le dernier, et c'est celui qui va précipiter les choses concernant la future mort de Jésus, puisque ça sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Il y a des gens qui croient suite au miracle, et il y a des gens qui vont voir les pharisiens, et c'est là que va s'enclencher le cercle infernal qui conduira à la crucifixion de Jésus. En réalité, ce ne sont pas eux qui ont enclenché ce cercle infernal, ça a été voulu et permis par le Père, parce que le Père avait un plan éternel, que Jésus meure pour le sacrifice de nos péchés. Et finalement, au-delà du caractère spectaculaire de cet événement, hein, puisque on a un mort qui sort du tombeau, alors là, il y a une petite précision importante à donner. Pourquoi ce caractère spectaculaire ? Parce qu'il y en a eu des morts dans la Bible qui sont revenus à la vie. Simplement, dans la tradition juive, à l'époque, on considérait que l'esprit de la personne décédée restait dans le corps pendant 3 jours. Donc, ça explique pourquoi Jésus intervient de manière différée, pourquoi le corps reste 4 jours dans le tombeau, pourquoi il sent déjà, parce que Jésus a voulu aller au-delà de la croyance de l'époque et vraiment prendre la condition extrême où, en théorie, il n'y avait plus rien à faire. Il faut bien comprendre ce contexte. Il intervient tard parce que c'est fini. Au bout de 3 jours, l'esprit était parti, c'était un cadavre. C'est pas Élie qui ressuscite le jeune, c'est pas le fils de la veuve de Naïm qui ressuscite, c'est vraiment, c'est terminé quoi. Les 4 jours sont passés et il n'y a plus rien à faire. Hein, c'est pas un état de mort apparente, comme on dit aujourd'hui, il y a pas mal de livres, des gens qui témoignent, j'ai vu un grand tunnel, etc. On n'est plus dans ce cas. Hein. Donc faut bien comprendre ça. Et voilà un petit peu un élément du contexte. Alors juste pour rappeler le contexte de ce texte, hein, je vous rappelle qu'on est dans l'étude des « Je suis de Jésus ». Il y a 7 « Je suis » et ces « Je suis de Jésus » sont importants à comprendre parce qu'ils ont pour but de révéler un peu plus qui est la personne de Jésus. Et à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce que Jésus veut révéler un peu plus à chacun de nous, au lecteur, qui il est. Tout simplement parce que, au travers de la compréhension de l'identité de Jésus, au travers de la compréhension de qui est Jésus, eh bien cela nous aide à comprendre notre propre identité, qui nous sommes. Et la recherche identitaire des êtres humains, c'est une quête de toute une vie. C'est la quête des philosophes, qui se pose toujours la question, mais d'où on vient, pourquoi on est sur Terre, où on va, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une quête identitaire permanente. Et les philosophes n'ont jamais répondu à la question, quels que soient les courants, l'existentialisme, Sartre, etc., sont jamais arrivés à répondre à cette question, parce qu'il n'y a qu'une seule réponse à cela, c'est Jésus. Et c'est pour ça que cette étude des « Je suis » est quelque chose de très important pour nous aider à comprendre qui est Jésus, ce qui nous permet de nous positionner, nous, et de savoir quelle est notre identité en Jésus. Et ces sept « Je suis » de Jésus, ce sont des noms, finalement, qui mettent en relief ce que Jésus fait pour le peuple. Alors, on en a vu plusieurs, on y reviendra. Jésus s'adresse à pas mal d'auditeurs, et il va, par exemple, dans le premier des « Je suis », c'est « Je suis le pain de vie », Jésus se présente comme l'accomplissement, quelque part, du symbole de l'Ancien Testament, qui représente la manne. La manne est quelque chose de symbolique que Dieu avait donné aux Juifs, et Jésus endosse cette symbolique en disant « C'est moi qui suis le pain de vie, celui qui croit en moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » D'accord ? Donc Jésus, le premier symbole qu'on a vu, Jésus pourvoit aux besoins physiques et quotidiens de celui qui croit en lui. Et puis la deuxième « Je suis la lumière du monde », deux fois. En Jean 7 et en Jean 8, « Je suis la lumière du monde », c'est Jésus la lumière, c'est Jésus qui guide, il pourvoit à notre guide, il est notre guide spirituel ici-bas. Et puis la dernière fois, on avait vu deux « Je suis », pour ceux qui étaient là, vous vous en souvenez, on avait vu la porte, Jésus est la porte, c'est le test d'entrée dans le royaume de Dieu. Est-ce que je suis rentré dans le royaume de Dieu par Jésus, ou est-ce que je suis rentré par un autre chemin. Certains vous disent, tous les chemins mènent à Rome, toutes les religions sont bonnes, etc. La Bible nous dit qu'on ne peut rentrer que par la porte Jésus. Tous les autres qui sont venus avant Jésus sont des voleurs et des brigands. C'est ce que Jésus dit en Jean 10. Donc tout ce qui est spirituel n'est pas forcément bon, selon la parole de Dieu. Et puis on a vu aussi, le « je suis », c'est le bon berger. « Je suis le bon berger », c'est le test de l'équipier. C'est le test du responsable. On a vu que la dernière fois, en Jean 10, Jésus donne une charge très virulente sur les pharisiens, sur les responsables du peuple, sur les faux leaders, sur les faux bergers, qu'ils traitent de voleurs, de brigands, de loups, qui passent par le côté, qui trompent les brebis. Et lui se présente comme le bon berger, celui qui donne sa vie. Et il le prouve, il donne sa vie pour chacun de nous et il ressuscite. Voilà, je vous rappelle ce qu'on avait vu la dernière fois. Jésus est un diamant multifacette, qui est la porte, qui est le bon berger, c'est celui qui accomplit les Écritures. Juste un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Je reviens en arrière. Alors, on revient à notre texte de Jean 11. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce texte est vraiment d'une richesse incroyable. Pour moi, c'est un véritable hymne à plusieurs choses. C'est un hymne à l'amitié. On voit cette amitié que Jésus a avec Marthe et Marie. C'est un hymne à l'émotion. Il n'y a pas un texte de la Bible qui parle autant des émotions. Alors, on n'a pas le temps d'en parler. Ça vaudrait pratiquement un thème à lui tout seul. Aujourd'hui, on est dans un monde un peu aseptisé où les émotions, il faut les cacher. Et là, on voit que dans la Bible, il y a énormément d'émotions, y compris de la part de Jésus. Ce fameux verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Voilà, c'est un hymne à l'émotion, c'est un hymne à l'espoir et c'est un hymne à la vie. C'est un texte qui a beaucoup de thèmes. Il se passe déjà à Béthanie. C'est avec Béthanie. Vous savez ce que ça veut dire, Béthanie ? Béthanie, ça veut dire c'est la maison de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance dans ce texte. On parle de consolation, on parle de tas de choses. Alors, Béthanie est très proche du mont des Oliviers, c'est sur les pentes du mont des Oliviers. On voit la souffrance des sœurs, la souffrance des Juifs qui viennent consoler, la souffrance de Jésus par rapport à cette maladie, par rapport à la tristesse des autres. On voit que Jésus frémit, alors tout ça on n'a pas le temps de le voir, mais ça vaudrait la peine de s'y arrêter, on y reviendra. Et peut-être au fond, quand on regarde ce texte, on voit que l'événement de la résurrection, c'est-à-dire le mort qui sort, est complètement rejeté en périphérie du texte. C'est bizarre, c'est un texte qui parle de la résurrection, et Lazare qui sort enveloppé de bandelettes, c'est complètement à la fin. On dirait que c'est marginal. Et je pense que derrière tout cela, Jésus a une intention particulière pour les spectateurs de la scène, on y reviendra tout à l'heure, et une intention particulière pour nous. Vous savez que dans la Bible, il est écrit que l'homme regarde à ce qui frappe les regards. Et probablement, imaginez cette scène le tombeau, tous les juifs, peut-être 50, 100, 200, 300 personnes qui sont rassemblées ici. Jésus parle, dialogue avec les femmes et à un moment donné, on voit un mort qui sort. Vous imaginez, scénario hollywoodien, des éclairs dans tous les sens, etc. Lazare qui sort enveloppé de bandelettes, il doit tituber, je crois qu'il y a des films qui ont été faits d'ailleurs. Mais en fait, c'est pas ça directement qui intéresse le lecteur. L'intention de l'évangéliste Jean n'est pas là. Et même si le message principal, c'est la résurrection de Lazare, et au-delà de la résurrection de Lazare, annonce la résurrection de Jésus, eh bien, il y a peut-être une autre intention de Jésus, une autre visée pédagogique que Jésus destine peut-être à ses auditeurs, et en particulier à ses disciples. Hein ? Vous avez vu qu'au verset 15 du texte, il est dit « Mais à cause de vous, je me réjouis de ne pas avoir été là. » Il y a cette mystérieuse attente de Jésus, finalement, à cause de ses disciples, pour montrer quelque chose, pour aller un petit peu plus loin. Et on va voir de quoi il s'agit. Alors, souvenez-vous, il y a 15 jours, Franz Galland était venu nous parler de la femme cananéenne. Et là aussi, on a eu un texte un peu bizarre, où Jésus paraît très dur, lui qui est doux et humble de cœur, qui est proche des gens, très empathique. Jésus était dur avec la femme cananéenne. Et on a vu derrière tout ça, et Franz a vraiment bien décrypté ce texte, que derrière, il y avait une intention de Jésus pour la femme de faire grandir sa foi. Et on va voir aujourd'hui que peut-être l'une des intentions derrière tout ça, c'est de faire grandir notre foi. Et notre foi, notamment, face à l'impossible. Parce que là, on est face à l'impossible. 4 jours qu'il est mort, c'est trop tard. Dans la tradition, l'âme était partie, il n'y avait plus rien à faire, le corps, d'ailleurs, il sentait déjà. Marthe dit, il sent déjà. C'est pas la peine, Jésus, il sent déjà, c'est impossible. Donc on va voir un petit peu tout ça. Donc comment on peut interpréter, finalement, cet épisode ? Alors, qui est-ce qui est concerné ? Quels sont les interlocuteurs ? Il y a les disciples qui sont là, qui accompagnent Jésus. Il y a Marthe, il y a Marie. Qui est-ce qu'il y a d'autre encore ? Qui est-ce qui est présent ? Qui est-ce qui est témoin ? Les Juifs, ouais. Les badauds, ceux qui sont autour. Et puis il y a les disciples, on l'a dit, et les pharisiens. Hein. Il y a des espions pharisiens qui suivent Jésus, qui observent ses moindres gestes pour essayer de le coincer, n'oubliez pas. Hein. Et donc, pour comprendre l'attention de Jésus, il faut bien considérer 2 choses. En fait, Jésus faisait du marketing avant l'heure. Est-ce qu'il y a des marketeurs parmi nous ? Des gens qui font du marketing ? Qui fait du marketing ici ? Personne ne fait de marketing ? Émilie n'est pas là, peut-être ? Non, elle n'est pas là. Bon. Donc, Jésus fait du marketing. Le marketing, c'est quoi ? Le marketing, c'est savoir répondre aux besoins des gens. On essaye de deviner le besoin des gens pour leur proposer un produit. Ben, Jésus, il fait exactement pareil. Il répond aux besoins des gens. Il répond pas à leurs demandes. Pourquoi Jésus répond pas à nos demandes ? Parce que Jacques nous dit que nos demandes sont souvent égoïstes. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors, on ne demande pas toujours mal, mais la plupart du temps, on a des demandes égoïstes. Par exemple, les disciples, Jésus, il est malade, Lazare. Dépêche-toi, il faut que tu viennes. Dans l'évangile de Marc, Jésus part prier, les disciples viennent le voir. Jésus, tous te cherchent, ils ont tous besoin de toi, il faut que tu guérisses à tour de bras. Et Jésus ne répond pas aux demandes, parce qu'il a besoin d'un temps avec son Père. Et quel est le besoin principal ici qui émerge dans ce texte ? Il y a plusieurs besoins. Il y a des émotions qui s'expriment. Il y a aussi une méconnaissance de la résurrection. Quand on regarde les réactions des uns et des autres, on ne connaît pas bien, les gens ne connaissent pas bien ce que c'est que la résurrection. Ils ont du mal à voir. Marthe, les Sadducéens. Il faut savoir qu'à l'époque, la culture du monde, de l'époque de Jésus, était imprégnée de philosophie grecque. D'ailleurs, on parlait le grec. Le Nouveau Testament est rédigé en grec. Donc la culture dominante était la culture grecque. Que dit la culture grecque de la résurrection ? Est-ce que vous le savez ? Non. Ouais, c'est ça. La culture grecque, c'est considère la résurrection comme une fable. Hein ? Paul à Athènes, acte 17-30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il parle à l'Aréopage, à une foule d'Athéniens. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils doivent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par un homme qu'il a désigné d'avance, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Je cite le passage. Et à ce moment-là, que disent les Athéniens ? Ha ! Nous t'écouterons une autre fois. Et ils s'en vont. Terminé. Paul leur parle de résurrection, c'est terminé. Donc la résurrection était un vaste concept, un truc un peu nébuleux, philosophique, etc. Et donc, dans ce monde de la philosophie grecque, eh bien, il y avait des gens qui avaient des notions quand même. Marthe, Marie avaient des notions. Donc Jésus a besoin de préciser aussi à ces gens, qu'est-ce que la résurrection ? Et la résurrection, c'est pas une personne, un concept vague, c'est une personne. La résurrection, c'est Jésus-Christ. Jésus est la résurrection. Il incarne en lui-même la résurrection. Parce qu'il est le premier ressuscité d'entre les morts, nous avons l'assurance aujourd'hui qu'un jour, si notre corps part en poussière, et vous avez vu que dans l'assemblée, ben, les gens vieillissent, et puis après, il y a des gens qui partent, et il y a d'autres qui naissent, et etc., et ça part, et ben, tous ceux qui partent, on sait qu'un jour, s'ils partent en ayant accepté Jésus, ils seront ressuscités, et avec lui. C'est ça l'enjeu, finalement, de ce texte. L'enjeu de ce texte, c'est de corriger, quelque part, l'image que les gens avaient du Messie. Du temps de Jésus, les gens avaient une image faussée. Notre frère, tout à l'heure, a lu le passage de Matthieu. « Qui dites-vous que je suis ?»« Oh, un prophète. Élie ressuscité. » Alors, il y a des gens qui voyaient Jésus comme un libérateur. C'est lui qui va nous libérer des Romains. Ils voyaient Jésus comme un guérisseur. Ah, Jésus guérit les malades. Donc, si on a cette image de Jésus guérisseur, on passe à côté. Parce que Jésus est bien plus que ça. Il est la résurrection et la vie. Alors, on va rentrer un peu plus dans la structure du texte, parce que là, c'est intéressant de voir comment l'évangéliste Jean va nous présenter ce concept de la résurrection et la position des différents interlocuteurs. Alors, je vais essayer de faire un petit schéma, comme d'habitude, c'est peut-être un peu compliqué. Je vous avais parlé, quand on a étudié Colossiens, de la structure en chiasme. La structure en chiasme, c'est quoi ? Très rapidement, dans un texte, on veut mettre une idée en valeur, d'accord ? Une idée importante du texte qu'on veut accentuer, eh bien, on va présenter cette idée de manière à la répéter. L'idée centrale, c'est l'idée D. Et on va avoir une symétrie de présentation, c'est-à-dire A va répondre à A', B à B', C à C'. Ceux qui étaient là au message sur Colossiens, vous pouvez reprendre. Donc l'idée, c'est de mettre en évidence ce point D. Et ici, dans notre texte, c'est quoi le point D ? Eh bien, c'est le verset qu'on a cité. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Ça doit être dans les méthodes de mémorisation. Hein. Donc, ceux qui prennent la méthode, vous apprendrez ce texte. Alors, si on reprend notre schéma, comment est construit ce passage pour mettre en évidence cette résurrection ? Eh bien, on va remettre nos personnages. On a les disciples. Alors, les disciples, ils en sont où ? Quand on regarde au verset 8, les disciples, bah écoute, Jésus, t'as pas besoin de retourner là-bas, parce que, si tu retournes là-bas, les Juifs cherchent à te lapider, tu vas te faire lapider, donc n'y va pas. Ils raisonnent avec leur tête. Puis au verset 12, les disciples lui disent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Donc ils comprennent pas que Lazare, il est vraiment mort, quoi. Donc Jésus est obligé, encore une fois, d'aller au-delà de leur raisonnement. Et puis au verset 16, c'est Thomas qui intervient. Thomas, c'est l'incrédule de la bande. Ah, bah écoute, puisqu'il est mort, allez, on va mourir avec lui, allez, on part tous ensemble. C'est Thomas. C'est vrai, c'est lui, hein. Donc les disciples constituent un premier groupe qui résonne avec leur tête. Parce que la résurrection de Jésus, on ne peut pas l'accepter avec sa tête. C'est pas rationnel. Faut l'accepter avec le cœur. Quand on accepte le Seigneur Jésus, on l'accepte avec son cœur, pas avec sa tête. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Marthe. Alors Marthe, qu'est-ce qu'elle fait, Marthe ? Au verset 21, Marthe dit à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc elle lui dit en gros, ben voilà, c'est de ta faute, hein, t'es pas venu à temps, c'est foutu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est là que Jésus va avoir une intention pédagogique vis-à-vis de Marthe. Vous savez que Marthe et Marie, les deux ont une position bien particulière, mais Marthe, c'est celle qui est activée, qui est active, qui est affairiste, etc. Alors que Marie reste au pied de Jésus à la maison. Et puis, au verset 24, quand Jésus la challenge, qu'est-ce qu'elle va faire? Au verset 27, elle va lui dire, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Elle va lui dire d'abord au verset 24, oui, je sais, il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Donc Marthe connaissait un petit peu la parole de Dieu, parce qu'elle savait que les morts allaient ressusciter. Il y a quelques références, j'ai pas le temps, dans l'Ancien Testament, mais elle connaissait sa Bible quand même. Elle sait. Donc vous voyez, le haut de la diapositive, on a des gens qui raisonnent avec leur tête. Ils disent, je sais, c'est comme ça, c'est trop tard, c'est foutu, c'est impossible, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc, après que Jésus lui ait dit quand même ce verset, elle a une foi qui s'active. Et c'est ça qui est intéressant, c'est voir la progression de la foi de Marthe par rapport à cette situation. Elle ne croit pas encore que Jésus est la résurrection, mais elle croit que c'est le Fils de Dieu. Donc il y a quand même une certaine foi active. Il y a une foi partielle chez Marthe. Chez Marthe, il y a une foi qui a besoin de progresser. Et c'est ça qui est beau, c'est que Jésus, en fait, il va utiliser cette situation pour faire grandir la foi de Marthe. Comme il a utilisé la situation de la femme cananéenne pour faire grandir sa foi, pour faire grandir sa persévérance. Vous comprenez le texte? Il commence à s'éclairer. On a une situation complètement impossible, et face à elle, des personnes qui se positionnent. Il y a des rationnels, il y a Marthe qui est rationnelle aussi, affairée, et sa foi s'éveille un petit peu. Alors Jésus la fait cheminer, progressivement, par petites touches. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme... il y a Marie. Alors Marie, c'est... Elle est au pied de Jésus, elle est ébahie, elle est en admiration. Mais finalement, Marthe, alors, elle est bien active, mais elle fait le même reproche que Marie. Elle va dire à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. En quelque sorte, c'est fini, quoi. Comme tu n'as pas été là, il n'est pas mort. Et Marthe, c'est une émotionnelle. Elle est dans les pleurs, c'est quelqu'un de très affectif, finalement. Et quand on est dans l'affection, on a du mal à croire. Et puis, il y a les Juifs. Alors, les Juifs, c'est pareil. Il y en a plein qui sont dans l'émotion, qui sont venus pour consoler Marthe et Marie, qui pleurent avec eux, etc. Finalement, on a tout un groupe. Et puis, même dans ce groupe de Juifs, il y en a un qui va dire, ah, puisqu'il a guéri plein de gens, est-ce qu'il pouvait pas? Est-ce qu'en dernier ressort, Jésus, il n'aurait pas pu faire quelque chose? Ah, non, il peut pas. Jésus, c'est un petit Jésus. Bon, il a eu un coup de peau, il a guéri 2-3 personnes, et puis maintenant, il sait plus, quoi. Il peut plus faire parce que c'est fini, ça fait 4 jours, etc. Vous voyez? Et les gens, finalement, on a tout un groupe qui sont un peu dans l'incrédulité. Ils sont un peu dans l'incrédulité, et surtout, ils sont dans l'émotionnel. Donc, vous voyez, on a un groupe, là, qui est dans le rationnel, qui pense, qui raisonne, qui regarde, c'est pas possible. Et puis, un groupe qui est dans l'émotionnel, finalement. Et ni le rationnel ni l'émotionnel ne peuvent permettre de saisir l'importance du message de Jésus. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça, nous, finalement? Devant une impossibilité, on raisonne soit avec notre cerveau gauche, c'est le rationnel, pour les neuroscientifiques, soit on raisonne avec notre cerveau droit, c'est l'émotion. On est débordé par les émotions. Eh bien, ce texte nous montre que la foi, c'est ni rationnel ni émotionnel. La foi, ça reste la foi. Voilà. C'est pas ça qui nous amène à la foi. Ce qui nous amène à la foi, c'est à un moment donné d'accepter les paroles de Jésus. D'accepter que la parole de Dieu dit vrai. Et quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », c'est que c'est une personne. Et une personne que chacun de nous peut accepter. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Chaque personne ici dans cette salle peut aujourd'hui croire que Jésus est la résurrection et qu'il donne la vie éternelle à celui qui l'accepte. Et ça s'appelle la foi. Et vous pouvez mettre toutes les équations que vous voulez, tout le rationnel que vous voulez. C'est pas ça qui va vous aider. Ça va vous rapprocher. Je sais pas si vous connaissez Francis Collins. Ça vous dit quelque chose? C'est un Américain. C'est le père, le coordinateur du projet génome humain. C'est lui qui a, avec une grosse équipe, il a décrypté au début des années 2000 le génome humain. Il a mis en séquence tout l'ADN. C'était un athée fini. Et il a effectivement, par ses travaux, montré que les merveilles du génome humain, c'était impossible que ça se fasse comme ça. Mais par le rationnel, c'est pas comme ça qu'il est devenu chrétien. Il a écrit un livre, hein, Francis Collins. Il a écrit un livre qui a été traduit en français. Je me souviens plus de son titre, mais voilà. Et la foi, c'est à un moment donné, je crois, que Jésus est la résurrection et la vie. C'est ça la vraie foi. Alors finalement, quels sont les types de foi que l'on rencontre ici dans ce texte? Eh bien, on a la foi des pharisiens, c'est une foi qui est nulle. Hein. Les pharisiens, ils n'ont pas de foi, ce qu'ils veulent, c'est tuer Jésus. Bon, ben voilà quoi, hein. Ils sont remplis de jalousie, et de toute façon, ils vont tuer Jésus, ils vont provoquer son arrestation, parce que c'est la goutte d'eau. La résurrection de Lazare, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis, il y a la foi des juifs, des spectateurs, des badauds. Ben, c'est des gens qui utilisent Dieu comme un joker. Ouais, bon, ben, on va essayer plein de trucs, puis si ça marche pas, on peut toujours essayer Dieu. Hein. C'est un peu comme ça, parfois, qu'on fait aussi. Hein. On essaye Dieu, si jamais ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben, on aura tout essayé. Hein, c'est le dernier recours. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est souvent un peu comme ça. Et puis, il y a la foi de Marie. La foi de Marie, c'est une foi émotive, c'est une foi qui reproche. « Ouais, Seigneur, pourquoi ça m'arrive et tout, c'est pas possible, il m'arrive plein de tuiles, c'est ta faute, etc. » Hein, t'aurais pu le guérir si t'avais été là, mais comme t'es pas là, c'est foutu, ça fait 4 jours qu'il est mort, c'est une foi limitée. Et puis, alors on n'a pas trop le temps d'en parler, mais je vais quand même le dire, la foi de Jésus, ici, il y a ce passage magnifique, hein, ce passage magnifique où au verset 41 et 42, où Jésus se met en relation avec son Père, lève les yeux et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Et ce que j'aime dans ce texte, c'est que Jésus, il parle au passé. Lazare n'est pas sorti, il parle déjà au passé, parce que pour lui, c'est déjà fait. C'est ça la vraie foi. Hein? Hébreux 11 nous dit « C'est la ferme espérance des choses qu'on espère. » On espère quelque chose qui est déjà arrivé. C'est comme la résurrection, quand on croit à la résurrection, c'est déjà arrivé. On est dans les lieux célestes, Éphésiens nous dit. On est déjà assis, même si je suis pas assis dans les lieux célestes, là je suis debout devant vous. Mais c'est ça, la foi de Jésus, c'est la foi soumise et reconnaissante. Deux attitudes importantes, la soumission au Père et la reconnaissance. Et Jésus rend grâce à chaque fois. Avant de multiplier les pains, il rend grâce à Dieu. Avant de ressusciter Lazare, il rend grâce à Dieu. Et il est soumis au Père. Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Tout ce que le Père fait, moi je le fais. Je ne peux pas faire autre chose que l'œuvre du Père, etc., etc. Et puis, la foi de Marthe, hein, qui est une foi réelle. Hein. Marthe, elle est dans le futur. Elle connaît Daniel 12:2. Hein, les justes ressusciteront. Elle vit dans le futur, elle connaît son texte, elle connaît sa Bible. Et Jésus va l'emmener plus loin. Il va la ramener au présent. Oui, tu crois qu'un jour à la résurrection des morts, tu seras ressuscité. Mais maintenant, Marthe, maintenant, moi, je suis la résurrection et la vie. C'est Jésus qui parle, c'est pas moi. Moi, je suis la résurrection et la vie. Jésus la ramène au présent. Et Marthe, lui dit Jésus, si tu me connais mieux, si tu sais mieux qui je suis, moi, Jésus, si tu sais que je suis la résurrection et la vie, si tu me connais mieux, alors ta foi va grandir. Alors Marie comprend ça, elle dit « Je sais », et puis elle trébuche à nouveau devant le tombeau. « Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là, il sent déjà. » Marthe. Merci. « Ça fait 4 jours qu'il est là, il sent déjà. » Donc vous voyez que la progression de la foi chez Marie, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est une progression lente, graduelle. C'est pas « Seigneur, donne-moi la foi » et boum, je prends 100 kilos de foi et je deviens le champion de la foi, le Georges Muller. Non, c'est pas ça. La foi, elle grandit au quotidien, par petites touches. On doute, on croit, on doute, on croit. Comme Marie. Moi, je m'identifie bien à Marie. À un moment donné, j'ai une foi, et puis il y a des moments, ça tombe. Et c'est ça qui est beau, c'est que la Bible ne nous cache pas ça. On voit en direct, en live, la progression de la foi de Marie. Elle sait que Jésus est le Fils de Dieu. Elle sait que son frère ressuscitera. Donc elle avance tout doucement et elle chemine. Et Jésus ici amène Marthe plus loin quand le doute de la réalité s'insinue en elle. Je répète, Jésus va amener Marthe plus loin quand le doute de la réalité s'insinue en elle. Et la question qu'on pourrait se poser est ma foi à moi, et ta foi à toi. Elle est comment? Ce texte nous montre qu'il est normal d'avoir des doutes. C'est normal d'avoir des doutes. C'est normal que devant une impossibilité, c'est normal si Samuel part, il ne sait pas où il va, il ne sait pas si ça va marcher, s'il doit déménager, c'est normal qu'il doute. Et on doute tous face à l'impossible, comme Marie, comme Marthe. Et c'est la connaissance de qui est Jésus qui va nourrir notre foi et nous aider à passer du doute à la foi. Je répète, c'est la connaissance de qui est Jésus réellement qui va nourrir notre foi et nous aider à passer du doute à la foi. Voilà un petit peu le sens pour moi central de ce texte. Il y a plein d'autres choses à dire, mais je vous en dirai pas plus aujourd'hui, parce que le temps est déjà bien avancé. Mais souvenez-vous que ce texte est un modèle de connaissance de Jésus, un modèle de progression de la foi, un modèle qui va nous inspirer pour finalement progresser, nous aussi, devant nos impossibilités. Pour Marthe et Marie, c'était la mort de leur frère. Mais pour toi ici, c'est quoi ton impossibilité? C'est quoi le truc qui se met devant toi et qui, à un moment donné, t'empêche de voir Jésus comme quelqu'un d'immense? Vous savez qu'il y a une espèce de requin, je ne me souviens plus du nom de l'espèce, mais il y a une espèce de requin qui, lorsqu'il est élevé dans un aquarium, si on le met dans un petit bassin, il va grandir d'une certaine manière, il va atteindre une taille limitée. Le même requin de la même espèce, si on le met dans un aquarium très grand, il va quasiment avoir à l'âge adulte une taille double. C'est-à-dire la taille de l'environnement dans lequel ce requin se développe est proportionnelle à sa taille adulte future. C'est incroyable. Et je trouve que c'est une belle image de notre foi. Notre foi, elle est à l'image de l'image qu'on a de Dieu et de Jésus. Si notre image, c'est un petit Jésus, ben notre foi, elle va être petite. Jésus, il est incapable de faire « Oh, mais Jésus, il ne peut pas s'occuper de moi. C'est trop dur pour lui. Il sent déjà depuis 4 jours, c'est fini. » C'est pour ça que la lecture de la parole, la méditation, la mémorisation de la parole, nous aide à comprendre qui est réellement Jésus. Et plus on aura une image immense de Jésus, plus notre foi sera grande. Je résume rapidement la progression des « je suis le pain de vie ». On a vu que Jésus pourvoit aux besoins quotidiens. Jean 8, Jésus est la lumière du monde, il nous guide sur le chemin. Jean 10, je suis le bon berger, c'est le test de la porte, par quelle porte je rentre. C'est le test du bon responsable, est-ce que je suis un bon berger, ou je conduis mes brebis en direction de Jésus, ou est-ce que je me sers moi-même. Et puis on vient de voir aujourd'hui, la résurrection et la vie, c'est le test de notre foi, finalement. Est-ce que je comprends que Jésus est la résurrection et la vie? Il nous reste 2 « je suis ». Je crois que c'est David qui traitera « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jean 13. Et je vous retrouverai pour la clôture, Jean 15, « Je suis le cep » et « Je suis les serments ». En tous les cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Jésus est ressuscité. Quelqu'un me l'a rappelé ce matin, j'en avais parlé il y a 10 années. Moi, je suis de culture orthodoxe. Et chez les orthodoxes, le jour de Pâques, on se souhaite, on dit « Jésus est ressuscité » et l'interlocuteur répond « En vérité, il est ressuscité ». Alors je vous dis « Jésus est ressuscité ». Amen. Amen.